Un tango, une danse, un baiser.
Du bêta, bêta, bêta.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21h.
Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Quand nous regardons une image, notre œil fait un parcours. Il a son propre trajet. Si l'on s'attache à dessiner des petits points à l'endroit où il s'arrête, alors une autre image se superpose, une sorte de cartographie de notre attention. Le récit de notre regard qui vient raconter par-dessus quelque chose de nous face à l'image. Aujourd'hui, la recherche, notamment en sciences cognitives, s'intéresse très fortement à notre interaction avec l'image parce qu'elle est partout, parce qu'elle est une nouvelle écriture omniprésente et peut-être parce qu'elle lève des enjeux politiques ou commerciaux colossaux. Daphné Le Sergent vous présente en ce moment trois films au Musée du Jeu de Paume à Paris, dans le cadre de la programmation satellite 11, intitulée « Neuf langues ». Dans deux, vous interviewez un directeur de laboratoire nommé Glyph, Jacques Malou, dont on dit qu'il est docteur en psychologie cognitive sur l'idée d'une écriture par les images, et vous projetez plus tard, plus loin, un essai vidéo. Tout ceci est visible jusqu'au 23 septembre sous le titre « Géopolitique de l'oubli ». Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Marie.
Alors peut-être parler de titre que vous donnez à cette proposition qui se fait en deux temps et en deux lieux, Géopolitique de l'oubli, parce qu'il me semble que ça renvoie ces deux titres plus largement à vos sujets de réflexion, à vos sujets de préoccupation dans votre pratique artistique, la géopolitique avec tout ce que vous travaillez sur la question de la frontière et l'oubli avec tout ce que vous travaillez sur la question de la mémoire. Alors est-ce que c'est possible de présenter, Daphné Le Sergent, votre pratique artistique comme ça, comme une sorte d'ensemble ?
Oui, alors j'ai commencé à m'intéresser à la frontière. À la frontière géographique et géopolitique, comme on l'entend au sens traditionnel du terme. Mais aussi, ce qui m'intéressait, en fait, dans ce phénomène de frontière, c'est comment elle allait tracer des divisions à l'intérieur des subjectivités, en fait, qui éprouvaient au quotidien l'expérience de la frontière. Et j'ai commencé beaucoup à m'intéresser, je suis d'origine coréenne, à la frontière entre les deux Corées, entre le Nord et le Sud. Ce qui m'intéressait en fait, c'était de voir combien est-ce que cette frontière qui était installée depuis la guerre de Corée, voire depuis la Seconde Guerre mondiale, avait aussi des retentissements dans le sensible. Dans une des vidéos qui s'appelle My Split Eye, que j'ai réalisée sur les postes frontières militaires le long des deux Corées, mais qui sont également ouverts au public. J'étais du côté sud, bien sûr, et je me suis pris à regarder les gens qui regardaient de l'autre côté. Et il me semblait qu'il n'y avait rien à voir, en fait. On voyait des paysages, on voyait des toutes petites maisons, on voyait le même paysage que les personnes qu'on habitait du sud, en fait. Et il me semblait qu'il y avait un regard qui était coupé. C'est pour ça que le titre, c'est « My Split Eye », c'est-à-dire on pense qu'on regarde quelque chose, mais en fait, on ne voit rien. Il n'y a rien à voir, en fait. On ne fait que projeter des histoires, des souvenirs, ce qu'on a pu entendre, ce que les médias racontent. Et on est comme au cinéma, face à ces grandes baies panoramiques qui s'ouvrent sur les paysages de la Corée du Nord. On est comme au cinéma, on a l'impression, on projette son propre film en fait. Et c'est pour ça que le travail joue sur la présence d'un rectangle blanc qui apparaît comme un écran de cinéma sur ces paysages de la Corée du Nord, qui en même temps un cache et un révélateur. C'est-à-dire que ça cache le paysage, puisqu'il n'y a rien à voir, mais ça révèle aussi, comme au cinéma, une histoire, sa propre histoire.
Et puis c'est pas un hasard que vous disiez je me prends à regarder les regardeurs qui est même regard, c'est bien que ce regard qui se situe à la frontière, c'est aussi un regard qui l'actualise, cette frontière. C'est parce que des hommes et des femmes regardent vers quelque chose à un point donné qu'ils nous disent qu'elle existe, cette frontière-là.
Tout à fait, qui résonne justement dans leur fort intérieur.
Et quand vous parlez aussi de choses qui sont coupées, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure par rapport au film que vous présentez au Jeu de Paume avec le choix d'un écran coupé en deux, et où vous travaillez la cisaille avec des images, où vous les coupez en deux, où vous superposez, enfin, par un effet de montage, deux images, comme si là aussi il était question de frontières.
Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement ce dont il est question, c'est-à-dire de retrouver dans l'espace de l'image une division intérieure qui fasse écho à la frontière géographique éventuellement, mais qui invite le spectateur à éprouver quelque chose de l'ordre de la scission et du lien. Donc une double articulation. Donc ces deux parties peuvent être deux morceaux de film, deux fragments. C'est un seul film au Jeu de Paume qui est projeté, mais qui est divisé, comme vous l'avez souligné, par un rideau. Mais ça peut être donc dans ces deux éléments quelque chose qui est divisé entre la photographie et le dessin, deux objets. C'est-à-dire des éléments qui sont mis à côté, mais qui demandent au spectateur de faire lien, en fait. Il n'y a pas de cohésion donnée au préalable.
Vous avez pris soin de préciser que vous étiez d'origine coréenne. Est-ce que c'est un point biographique qui nous renseigne sur votre pratique ? Est-ce que vous en faites aussi l'origine de votre pratique artistique, de ce qui vous met en mouvement ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'origine coréenne me permet... alors, c'est un petit peu, comment dirais-je, difficile à expliquer, mais donc je suis d'origine coréenne, j'ai été adoptée. Et en fait, la question des origines m'a toujours intéressée, et aussi également la question de la mémoire. Et mon travail artistique, puisque j'avais une pratique artistique auparavant, mais ce travail commence véritablement avec un voyage en Corée et avec, les retrouvailles avec ma famille biologique.
Et à partir de là, se met en place quelque chose qui change de forme, change de propos. Vous avez l'impression qu'il y a une scission, pour reprendre vos termes, qui commence à partir de ce voyage en Corée ?
Alors, je m'intéressais déjà à la frontière auparavant, plus sous des angles géopolitiques, bien sûr. Mais ce qui m'a intéressée aussi par rapport à cette origine coréenne, c'est comment, en fait, elle me permet de changer de point de vue. D'un seul coup, je n'étais plus seulement, mon ressenti n'était plus seulement français, avec le point de vue, entre guillemets, ethnocentré que cela implique, mais il était aussi en Corée. Et j'ai commencé à regarder l'art contemporain, l'histoire de l'art, depuis ce point de vue, et ça m'a permis d'élargir ma vision.
Par exemple, qu'est-ce que ça a pu modifier ? C'est assez intéressant, c'est votre déplacement à la fois géographique et intime qui a modifié votre regard.
En fait, on a tendance à regarder beaucoup l'histoire de l'art, la production artistique contemporaine, des scènes dites, entre guillemets, émergentes au XXe siècle, comme des redites ou des réappropriations ou des réinterprétations, en fait, des formes modernistes de l'Europe et des États-Unis. Mais depuis un autre point de vue, c'est-à-dire, l'Inde ou la Corée du Sud ou d'autres pays, on s'aperçoit tout d'un coup qu'en fait, il ne s'agit pas de redites, il s'agit en fait de signes, de formes qui vont être en effet de l'extérieur réactivées, mais qui ont d'autres enjeux en fait. Et du coup, l'axe progressiste de l'histoire de l'art que nous, on a tendance à garder, même si on est dans une période où il n'y a plus du tout de lisibilité historique, il éclate pour avoir, pour être substitué par une autre lecture qui est plus transversale. Et c'est là où moi je m'intéresse beaucoup. Alors la question, si je parle d'universalité, c'est très peut-être un peu fort, mais comment en fait, quel type de forme, quel agrégat formel peut renvoyer à un rapport au monde, renvoyer à un rapport du sujet au monde, et comment en fait les formes de l'histoire de l'art finalement sont un vivier artistique qui permettent, une boîte à outils qui vont permettre d'exprimer cela. Alors bien sûr, c'est aussi une codification qui vont faire que certains artistes de pays dits, enfin qui sont déjà avérés émergents, qui sont très présents sur la scène internationale, c'est comme ça que on va pouvoir accéder à telle biennale ou à telle exposition d'art contemporain parce que on va pouvoir parler à la hauteur de cette codification des formes artistiques. Et européenne, américaine.
Et votre endroit, vous, Daphné Le Sergent, c'est de les souligner, justement, ces codifications-là, c'est de pouvoir les mettre à jour, par exemple?
Alors, c'est un petit peu compliqué, bien sûr. Enfin, repérer, oui, comme toute personne qui connaît l'histoire de l'art pourrait également les repérer, et c'est ce que font beaucoup de critiques. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, en fait, c'est comment est-ce que la forme peut être une cristallisation d'habitudes sensorielles qui renvoie à des habitudes, des pratiques liées à une culture et comment en fait finalement, même si on a l'impression que c'est une forme inspirée de la modernité artistique, eh bien, cette forme-là peut renvoyer à autre chose. Et je pense que c'est pas pour rien s'il y a une réappropriation de la part de ces artistes-là. C'est pas gratuit à chaque fois, en fait il y a un ancrage. J'aimais beaucoup en fait la réflexion d'Arjuna Padurai, qui est un penseur, un philosophe indien qui exerce aux États-Unis, et je ne me souviens plus exactement les termes de cette citation, mais en fait il disait: il n'y a pas d'appropriation possible tant qu'il n'y a pas une pratique préalable dans la culture d'origine qui permet en fait l'ancrage de ça.
Donc ça institue que ça vient pas de nulle part, en fait, qu'à chaque fois qu'il y a une réappropriation, ça veut dire qu'il y a une histoire.
Exactement, c'est pas juste, comme on pourrait le voir nous, de notre point de vue occidental, un coup par coup, c'est-à-dire une stratégie ou une tactique artistique, et je sais que on a tous conscience que les artistes jouent beaucoup de ça, en fait, mais pas que, bien sûr. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi, je pense, tout un terrain, un terreau sensible qui fait que l'appropriation de cette forme, le développement de cette forme est possible.
À vous entendre, Daphné Le Sergent, on se rend bien compte qu'il y a un appareil théorique qui est assez conséquent, qui sous-tend votre travail et votre production artistique. Quand on lit des présentations, souvent on fait mention de votre travail de recherche universitaire. Est-ce que vous pouvez en parler et dire comment est-ce que ça vient alimenter votre production artistique, parfois n'a rien à, ou parfois ne rien avoir à faire avec elle, mais en tout cas c'est présent?
Oui, alors en effet, je suis enseignante-chercheure à l'Université Paris 8 au département photographie. Et à un moment donné, en parallèle de mon activité artistique, j'étais critique d'art. Et c'est ce voyage en Corée qui m'a fait réaliser en fait qu'il y avait beaucoup de choses dans cette activité artistique qui m'étaient importantes. Mais en tant qu'artiste, tout est mélangé.
C'est le sens de ma question.
C'est pas très clair, c'est un gros chaos. J'alimente mon travail artistique de beaucoup de lectures, en fait, parce que c'est un petit peu le terrain et théorique. Et moi, en tant qu'artiste, hein, bien sûr, pas forcément en tant qu'enseignant-chercheur, mais en tant qu'artiste, je vois ça comme un terreau imaginaire. Les lectures permettent de voyager, de réfléchir, de se déplacer de point de vue, de penser autrement. Et tout ça devient... Donc, ce sont des idées concrètes, des appuis, mais... c'est aussi un matériau, en fait, ce sont des mouvements. Et en fait, je me laisse dériver sur ces mouvements et petit à petit, ils se condensent et ça peut donner une idée artistique, pourquoi pas, ou un projet.
Ce qu'on peut dire en retour éventuellement, c'est que certaines des productions artistiques peuvent être aussi réinjectées dans le champ théorique. C'est-à-dire que certaines propositions que vous faites artistiquement, elles peuvent d'un seul coup devenir... des idées, elles aussi, devenir et alimenter une réflexion. Est-ce que je me trompe? Il me semble que c'est assez circulaire,
exactement,
c'est pas que dans un sens.
Exactement. La production des images est très importante parce qu'elle permet d'éprouver, en fait, qu'est-ce que c'est que de produire une image, de regarder ces images, d'essayer de les analyser, de voir qu'est-ce qu'elles disent par rapport à sa propre trajectoire, par rapport à la sensibilité. Et c'est dans l'analyse, en fait, de mon travail artistique que, justement, cette réflexion prend ancrage. Dans le catalogue de l'exposition Jeu de paume, C'est un texte en fait qui répond à une pratique de photographie dessin et ce que vous mentionniez au tout départ de l'émission, c'est-à-dire cette question du regard qui se déplace dans l'image et avant tout une préoccupation de quelqu'un qui réalise, qui fait une image en fait.
Le but de la novlangue, c'est de parvenir à l'anéantissement de la pensée et de remplacer en fait le sens par le signal. La langue de bois, c'est une langue de signaux, c'est pas une langue de sens. Et donc Orwell a répertorié, et c'est un peu lui qui a inspiré mon travail sur la langue de bois, il a répertorié les moyens par lesquels on peut transformer, un régime totalitaire peut transformer la langue de façon à aboutir à cette extinction de la pensée.
Les temps qui courent, Marie Richeux.
Je le disais en introduction tout à l'heure, votre travail, Daphné Le Sergent, est présenté dans une programmation qui s'appelle Satellite 11 et qui a pour titre Novlangue. Et c'est vous, Agnès Violou, qui vous en occupez. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Est-ce que le titre de cette programmation fait directement référence à Orwell, comme on l'entendait dans l'archive qu'on vient d'entendre de Françoise Thaume ?
Alors absolument, donc il s'agit de la 11e édition du programme Satellite que j'ai construit autour des correspondances, des analogies entre une langue digitale aujourd'hui, qui est celle dont on va faire usage sur les réseaux sociaux, sur cette nouvelle agora. Donc une langue qui va se construire de manière très formatée, hein. Par exemple, on va produire une pensée en 280 signes, une langue construite sur l'association, le collage, le néologisme, sur le commentaire permanent, avec le paysage langagier imaginé par Orwell dans son roman d'anticipation 1984.
Et alors là, vous proposez, vous, en faisant appel à des artistes de la scène contemporaine, de venir réfléchir avec vous sur la production de cette langue, ou de voir comment est-ce que cette question de la production de cette langue rebondit sur leur travail. Comment est-ce que vous choisissez les artistes? Est-ce qu'ils doivent avoir déjà une préoccupation pour tout ça? Ou est-ce que vous faites le pari qu'ils vont rencontrer votre problématique avec intérêt?
Alors oui, c'est tout à fait une histoire de rendez-vous, et c'est le fond du travail du commissaire. C'est un travail de terrain, de rencontre avec les artistes, de conversation privilégiée sur un long terme, pour à un moment donné leur proposer, dans l'occurrence d'une programmation, de venir réfléchir sur un sujet en imaginant qu'il produira des réflexions intéressante pour eux et pour nous.
Donc c'est pas du tout d'avoir déjà repéré ces problématiques dans leur travail artistique au préalable.
Alors le projet Satellite est très singulier, puisqu'il va s'agir d'articuler une année entière autour d'un même fil d'Ariane que je vais présenter c'est un appel d'offres en fait qui a lieu, que je vais présenter en présentant le travail des artistes, mais sans solliciter les artistes en amont. Donc j'y vois, moi, des points de rencontre et des sujets avec les artistes invités qui ont déjà cet matériau langagier comme clé de voûte dans leur travail. Mais je mise sur eux pour être enthousiaste et libre pour cette proposition.
Quel genre de conversation vous avez entretenu avec Daphné Le Sergent, et peut-être quelle a été la formulation de votre invitation?
Alors avec Daphné Le Sergent, on a une histoire de binôme commissaire-artiste depuis plusieurs années à présent. J'ai entamé le travail par réfléchir sur comment construire cette année de programmation en trois expositions. Et ça s'est construit de manière très simple et très fluide, puisque cette langue dans l'ouvrage d'Orwell est divisée en trois classes de vocabulaire. Donc il va séparer en fait les termes techniques, les termes de la langue politique, la rhétorique et la langue du quotidien. Donc j'ai pensé intéressant de confier à chacun des artistes invités une de ces catégories qui viendrait comme ça innerver leur proposition, puisque l'une des spécificités de Satellite est la production d'un film, donc d'une nouvelle œuvre finalement qui n'existe pas au moment de l'invitation. Je suivais depuis un petit moment le travail de Daphné Le Sergent, qui s'intéressait d'une part à cette notion d'une langue universelle, de Babel, et puis à des questions liées à l'autorité de cet overflow d'informations aujourd'hui, telles qu'on les reçoit sur les outils Internet et sur la machine. Donc sa manière de répondre à mon invitation et à interroger ce novlangue digital était de réfléchir à l'écriture par l'image et la manière avec laquelle ces nouvelles écritures vont générer des comportements, une forme de carcan finalement, une autorité de la machine sur notre structure de pensée.
Peut-être vous demander, Daphné Le Sergent, comment est-ce que vous avez reçu cette invitation? Comment est-ce que ça a mis en route la production de votre travail?
Alors, moi, j'étais ravie en fait de l'invitation d'Agnès Violeau.
Tant mieux.
Je trouve que la question qu'elle soulève sur le novlangue est vraiment passionnante. Ça m'a vraiment ouvert des portes en fait sur mon travail et sur cette question-là, bien sûr. Moi, par rapport au novlangue, et par rapport à la classe catégorie C dont elle a fait mention, ce qui m'a intéressé, c'est comment aujourd'hui on pouvait avoir un nouveau novlangue en fait. Est-ce que c'était possible déjà? Et il m'a semblé que dans l'écriture, dans la communication par smartphone, par messagerie, on avait quelque chose qui pouvait ressembler, c'est-à-dire la communication par GIF, émoji, photographie, quelque chose qui soit très archétypal en fait, où on va pas développer dans une phrase « j'étais ravie de vous rencontrer dans ce contexte-là », etc., mais on va juste envoyer un petit sourire. Je trouvais que ça pouvait bien correspondre, c'est-à-dire dans l'esprit orwellien d'une fiction qui recouvre la réalité, en fait. Même si, bien sûr, nous sommes totalement libres de ce que nous pouvons dire. Et Donc j'ai essayé de proposer à Agnès Yolo une question, une problématique autour d'une écriture, autour de l'image, par l'image. Est-ce que ça serait possible en fait? Est-ce qu'on pourrait envisager ça?
Comme quelque chose de positif? Ou il n'y avait pas de qualification positive ou
aucune
négative?
Aucune qualification, mais en tout cas par rapport à mon sujet de recherche, c'était quels seraient les enjeux d'une écriture par l'image? Et est-ce que cette écriture par l'image pourrait créer quelles seraient les pratiques qui pourraient être induites en fait par cette écriture par l'image, parce qu'aujourd'hui l'écriture se fait beaucoup par clavier de téléphone ou par ordinateur, et donc c'est une coordination de l'œil et de la main, une coordination d'un œil qui va guider, repérer, fixer, viser, et d'une main sur la souris qui va bêtement cliquer, appliquer, etc. Ou même sur une tablette tactile ou sur un écran de téléphone tactile, eh bien on a un œil qui va repérer et une main qui va juste cliquer. On parle de tactilité dans les écrans et dans nos interfaces, mais en fait, on a plus un doigt marteau qu'une vraie référence à notre sens du toucher, en fait. Et il me semblait que là, en fait, dans cette pratique de l'écriture, il y avait quelque chose de l'ordre de la division, en fait, entre l'œil et la main. Et c'est ça qui m'intéressait de travailler. Ces usages qui ressemblerait, enfin qui nous ferait penser, qui évoquerait le novlangue, pouvait créer des frontières intérieures. Donc c'est pour ça que la question, le titre géopolitique, c'est posé en fait.
Et ce qui renvoie évidemment à tout ce qu'on a pu développer en début d'entretien sur vos préoccupations, les scissions intérieures.
Exactement.
Et y compris même, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais l'intervention de la main, de l'œil et de la main, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans votre travail, Daphné Le Sergent.
Oui, tout à fait. En fait, là, dans la vidéo géopolitique de l'oubli, on commence par un récit très... on va dire dans l'imaginaire, entre un œil et une main autonomisés, l'œil qui va être souverain et la main son esclave. Et petit à petit, on progresse dans le récit de la vidéo et on découvre que l'œil a une mémoire propre qui va se faire par trajectoire oculaire, par sillage, sillon. Et la main, en fait, va développer une mémoire qui relève plus du contact avec les objets et qui va garder en fait en mémoire plus la douleur ou voilà, donc deux types de mémoire en fait qui pourraient faire appel à deux cultures, deux civilisations différentes.
On va aller plus loin dans l'analyse de votre travail, Daphné Le Sergent, mais peut-être pour conclure avec Agnès Violo, lorsque vous entendez Daphné Le Sergent parler de la manière dont elle a reçu votre invitation, peut-être nous dire, vous, comment vous avez reçu la production artistique?
Alors, pour moi, la réponse aux novlangues, elle est d'une grande pertinence et dans l'angle d'attaque du sujet, dans la manière avec laquelle elle s'est emparée du sujet, mais aussi dans la plasticité. Donc, Daphné Le Sergent parlait de cette histoire de division intérieure. On va retrouver une exposition construite sur un dispositif très binaire à l'image du novlangue. Dans le livre d'Orwell, on a cette histoire de double pensée, on a vraiment cette binarité très présente. Elle va, dans la grande vidéo éponyme, donc géopolitique de l'oubli, diviser son espace et elle va construire en fait sa vidéo, non pas en produisant de nouvelles images, mais en utilisant des images qu'elle va collecter dans les banques de données en ligne, qui sont des images existantes, qu'elle va utiliser telles quelles, donc qui sont pour la plupart en assez basse définition, donc elle va même parfois retravailler, redégrader. Et je trouve que c'est une belle métaphore de cette langue diminuée aujourd'hui et de la manière avec laquelle on a peut-être une difficulté à arriver jusqu'à la vérité de l'information. Et puis la deuxième élément qui m'intéressait vraiment dans sa réponse, ce rapport au champ lexical Internet, à ce paradigme-là, qui est en fait très proche ou quasiment le même que le champ lexical de la nature. On va retrouver donc un nuage qui se réfère au cloud. On va voir dans cette vidéo un déluge, donc ce déluge informationnel. On va parler de flux, d'inondations, et Voilà, pour moi, c'est une belle réponse aussi à cette définition que donnait Aristote de la nature, qui est avant tout un mouvement intérieur, une division intérieure individuelle.
Merci beaucoup Agnès Violeau, on va aller un peu plus avant dans l'évocation de son travail avec Daphné Le Sergent, mais avant cela, on va écouter la parole de Georges Didier Huberman en 2004 dans l'émission Du jour au lendemain, nous parler des images.
Quand on regarde une image, on ne doit rien laisser tomber. Tout est pertinent dans une image. Une image, c'est une seule surface, il ne faut l'amputer de rien, voilà. Donc ça, c'est un principe méthodologique, d'ailleurs, que le psychanalyste reconnaîtrait dans sa façon d'écouter une parole. Dans une parole, on ne coupe rien. Si on coupe un témoignage, on n'entend rien, bien sûr. Bon, ça, c'est une première chose. Voilà pourquoi, premièrement, on a porté inattention, si j'ose dire, à ces images. La deuxième raison, elle est plus philosophique et elle est absolument inverse de celle que je viens de dire. La deuxième raison... Elle relève de notre, comment dire, de notre âge postmoderne. Voilà. La deuxième raison relève d'une certaine attitude vis-à-vis du discours historique et vis-à-vis de l'image en général. C'est une attitude, je dirais, de critique radicale. Qu'est-ce qu'a fait Foucault ? Qu'est-ce qu'a fait Michel de Certeau avec le discours historique ? Ils ont montré que le discours historique est une construction de discours, est une construction. Mais c'est fondamental de dire ça. C'est l'évidence. Aujourd'hui, on trouve des historiens qui poussent ce raisonnement jusqu'à dire que toute histoire, tout texte historique est une fiction. Alors là, on radicalise le propos... On passe dans le grand doute postmoderniste et on confond tout et on dit n'importe quoi. On fait la même chose avec les images. Il y a une époque où, dès qu'on voyait une photo, on avait lu Barthes, alors on disait « ça a été, puisque c'est en photo ». Il y avait là-dessus une certaine, une certaine empathie quoi, avec ce qui avait été photographié. Et on ne doutait de rien dans la photo.
L'évolution de notre rapport aux images dans la voix de Georges Didier Huberman, Daphné Le Sergent, il y a beaucoup de choses, il me semble, qui peuvent nous permettre d'évoquer le travail que vous présentez en ce moment au Jeu de Paume. Peut-être, dans un premier temps, l'idée de l'image comme la surface, et dans un deuxième temps, l'idée de l'image comme la fiction et comme quelque chose en quoi nous avons eu progressivement moins confiance. J'ai dit en introduction que vous présentez deux petits films au départ, puis ensuite un essai vidéo dont parlait tout à l'heure Agnès Violeau, et où vous interviewez un docteur en psychologie cognitive. Puisqu'on parle de fiction, bon, qui est ce monsieur et à quel point il est docteur ?
Alors, Jacques Malou n'existe pas. C'est en fait un ami, Hugues Jacquet, qui est en réalité sociologue des arts du savoir-faire, qui s'est prêté à cet exercice et qui a joué le jeu d'une autorité de parole d'un docteur en sciences de psychologie cognitive. Et cette interview, en fait, n'est pas réelle. Il a été écrit avant, mais se base, en fait, se fonde sur des faits réels, en fait, des vraies études scientifiques.
Pourquoi vous faites ce choix-là plutôt que d'aller voir vraiment un laboratoire en sciences cognitives qui va pouvoir, parce que c'est vrai, parce qu'ils y travaillent, vous renseigner sur le trajet de notre regard dans une image? Vous décidez-vous que ce sera un copain, que ce sera de la fiction et que ce sera présenté comme tout autre chose que de la fiction, comme une vraie réflexion scientifique?
Alors j'ai en effet travaillé avec le Lutin User Lab, qui est un laboratoire, qui est une plateforme, le laboratoire qui est une plateforme et qui développe des interfaces comme l'eye tracking, mais toutefois ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir être dans une lisière un petit peu indiscernable entre la réalité et la fiction, pour que ces deux vidéos entretiens soient dirigées en fait vers la grande vidéo ensuite. C'est-à-dire que la forme d'écriture dont ce Jacques Malou parle est déjà en fait fictionnelle, mais elle s'inspire de la réalité. En fait, c'est une écriture qui se joue à rebours. Elle commence dans comment nous on voit l'écriture cunéiforme ou maya, ou comment moi je l'interprétais plutôt, ça serait plus juste de dire ça. Et ensuite, j'avais envie en fait que les gens puissent, un petit peu comme dans 1984, puissent croire à quelque chose d'incroyable et qui sonne vrai en fait. Et de pouvoir se projeter dans un imaginaire qui sonne vrai, c'est déjà pouvoir envisager quelque chose d'autre.
Est-ce que, puisque vous avez prononcé ce mot du eye tracking et que ça fait partie justement des choses qui sonnent vraies et qui sont vraies et qui interviennent dans votre discussion avec ce vrai-faux Jacques Malou, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit ?
Oui, alors en fait, les recherches d'eye tracking visent à savoir où est-ce que le regard se pose, comment il se déplace, par rapport à particulièrement des interfaces numériques. Alors, il y a une certaine branche en fait de recherche qui va permettre de pouvoir concevoir des interfaces pour que l'utilisateur ait cette impression d'intuitivité, enfin je sais pas si c'est le terme exact,
quelque chose de très intuitif, quelque chose,
voilà, et pour que le l'utilisateur soit très à l'aise en fait dans l'utilisation de cette interface, qui n'ait pas l'impression de chercher, de galérer par rapport à une commande ou une autre. Et en fait, il me semble ici que par rapport à la question du carcan orwellien, il y a une forme de prévisibilité qui se joue en amont en fait.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sera capable de dire comment un humain se déplace dans une image, à quelles informations il donne son attention en premier, pourquoi est-ce qu'il revient sur tel ou tel point, on va pouvoir le tracer le regard.
Exactement.
Et éventuellement, si je comprends bien, Daphné Le Sergent, la réflexion que vous introduisez, éventuellement produire des images qui seront calquées sur nos comportements, calquées sur la manière dont on regarde les choses.
Exactement, c'est bien l'idée en fait d'un possible langage qui m'est arrivé par rapport à cette idée, c'est de pouvoir penser à un langage qui soit, puisqu'aujourd'hui on est tellement assailli par des informations, on parle de data déluge, enfin de déluge informationnel, on peut parler d'infobésité, on cherche toujours à aller plus vite parce qu'on est vraiment noyé sous la somme de notifications, de mails, etc. etc. Et face à ces interfaces, face aux pages web ou à ce qu'on va avoir, à nos applications, on va essayer d'être très rapide. Et la mise en place possible d'une écriture par le regard pouvait être intéressante. Elle l'est pour la recherche en psychologie cognitive. Bien sûr, elle ne sera pas supplantée par l'efficacité en fait de 10 doigts qui tapent sur un clavier, mais on pourrait imaginer en fait que écrire par le regard soit possible. Et dans ces cas-là, en fait, quelles seraient les trajectoires empruntées, quelles seraient les trajectoires stéréotypes en fait qui permettraient de dire ceci ou cela. Et voilà, moi j'ai voulu axer ça sur des formes en arborescence. Parce que c'est la forme aujourd'hui numérique de la mémoire en fait. On classe les choses par arborescence, on hiérarchise et on les retrouve parce qu'elles sont en arborescence. Donc j'avais envie de donner ce petit clin d'œil là. Et c'est vrai que si en premier lieu l'interview se placer comme une fiction, les gens disent oh, non, c'est pas possible, ça n'arrive pas. Alors que là, en fait, on peut essayer de croire, ou on peut pouvoir croire que
Moi, j'ai complètement cru
que c'est vrai. On se dit tiens, une écriture par arborescence, c'est bizarre. À quoi ça renvoie en fait? Et ça m'intéressait bien d'aller vers ça.
C'est comme si peut-être vous faisiez l'hypothèse d'une écriture en train de naître, d'une écriture extrêmement contemporaine, et ce qui nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, Daphné Le Sergent, d'une appétence pour l'universel. D'un seul coup, si tous les humains étaient capables d'écrire avec les yeux et de créer des arborescences et d'ordonner des informations juste en regardant, tout le monde pourrait parler la même langue.
Oui, il y a un petit peu de cet attrait-là, en fait, en effet. Mais il y a aussi l'idée, en fait, derrière tout ça, que l'écriture, dans sa forme, dans ce qu'on peut imaginer, dans son apparition, en fait, dans ses, entre guillemets, origines, c'est une technique de mémoire. Et l'arborescence, c'est une technique de mémoire, en fait, qu'on a aujourd'hui. Et comment est-ce que cette technique de mémoire, qui se retrouve dans tous nos... dans tous nos fichiers, enfin j'allais dire à chaque fois qu'on ouvre notre, on allume notre ordinateur, comment ces arborescences peuvent en effet rendre plastique notre écriture et guider en fait notre rapport au langage. Thank you.
kibe me palal kai cherav mori niya galaka fera
L'avenir n'existe que sous la forme d'une collection d'images. Nous les produisons, ces images, en remplaçant une part de la réalité présente, celle qui est accessible à nos sens, par des représentations plus ou moins précises de ce à quoi cette réalité pourrait, le temps passant, laisser la place. Cette construction nécessite l'intervention des plus fabuleuses performances dont notre cerveau soit capable. Il paraît raisonnable d'admettre que nos cousins, les êtres vivants, quels qu'ils soient, même les plus proches de nous dans l'arbre généalogique, les primates, ne peuvent accéder à cette capacité. Seuls les humains peuvent suffisamment comprendre les processus en cours pour anticiper les transformations qui vont se produire. Mettre systématiquement le présent au service du futur peut être regardé comme un privilège de notre espèce. Cette caractéristique doit bien sûr être prise en compte dans notre recherche d'une organisation sociale aussi efficace que possible. En effet, cette particularité est en elle-même une source de conflit dans la réponse donnée par chaque individu et par chaque collectivité à la question du partage des biens disponibles, entre d'une part les besoins immédiats et d'autre part, les besoins futurs.
C'est la voix du philosophe Albert Jacquard en 2008 sur France Culture. Daphné Le Sergent, finalement, depuis le début de cet entretien, on parle beaucoup des origines des choses, voire d'une forme d'archéologie, qu'il s'agisse de d'une langue en train de se construire, c'est-à-dire qu'on en observerait les origines contemporaines, qu'il s'agisse de toute votre réflexion sur la mémoire. Avec Albert Jacquard, il nous est donné de réfléchir peut-être plus avant à l'idée de une collection d'images qui serait mémorisée au présent, archivée au présent, dans une tension vers le futur. Et il me semble que c'est pas absent de ce que vous proposez comme réflexion en ce moment au Jeu de Paume. Pourquoi l'on archive? Pourquoi faire? Et qu'est-ce que l'on peut faire de ce que l'on archive?
Alors, la question de l'archivage et de la mémoire de cette collection d'images, c'est très intéressant parce que c'est en même temps quelque chose qui est passé, qui est engrangé. Mais c'est en même temps aussi quelque chose qui nous constitue aujourd'hui, en fait, qui relève, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, de la subjectivité, j'aime pas trop le mot identité, mais c'est comment, en fait, l'agrégat de ces différents fragments d'images, tous liés l'un à l'autre, par soit une raison biographique, soit parce qu'ils sont, ils ont des liens cognitifs, enfin pas cognitifs, mais parce qu'ils sont liés et évoquent la même question, qui sont regroupés par la question de la connaissance en fait, soit par rapport à quelque chose de sensitif, on va lier des choses par mémoire involontaire parce qu'ils résonnent ensemble de la même façon. Donc toute cette collection d'images va nous constituer en fait. C'est en même temps ce qu'on éprouve et en même temps ce qu'on archive. Et ce qui est intéressant dans le rapport aujourd'hui au cloud et
Va rappeler hein, le cloud pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de nuage virtuel dans lequel on peut envoyer de l'information pour en garder une mémoire, mais une mémoire qui est pas, en tout cas, qui a un endroit très physique dans les data centers, mais qui n'est pas dans notre placard ou dans nos tiroirs.
Exactement. Et oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce petit terme nuage parce que on a l'impression que ça fait partie de notre environnement, c'est innocent, mais en effet, c'est une réalité économique un petit peu, enfin très très dure, enfin celle de la Silicon Valley. Et c'est pas du tout un nuage innocent sur nos têtes, en fait. Mais oui, cette collection d'images, elle se trouve face à nous et par rapport à la facilité que nous donnent les moteurs de recherche pour détecter, trouver tel ou tel, eh bien, on va Oui, en fait, par rapport à cette question du cloud, c'est une potentielle mémoire qui se trouve face à nous, qui nous dépasse forcément, parce que c'est tout ce qui relève de la mémoire externe, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse, qu'on a au départ eu pour engranger, garder des choses que notre mémoire normale, naturelle, aurait pu nous permettre de garder. Mais à un moment donné, au XXe siècle, tous les appareils qui nous permettent cette mémoire externe vont nous permettre une mémoire qui est inhumaine. Et face à cette mémoire, face à cet ensemble d'images sur Internet, on est face à une force
plus grande que nous,
à une force qui nous dépasse en fait. C'est pour ça que dans la vidéo, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler avec des images, des éléments naturels. Donc, quand je montre des vrais nuages, des orages, du tonnerre. Enfin, il y a du tonnerre en musique. Il y a des éclairs, pardon, des vagues. Des éléments naturels, comme si en fait notre environnement se déchaînait contre nous, comme si en fait finalement ce qu'on a voulu garder comme emprise sur nous et sur le monde se retournait contre nous comme une énorme force qui nous écroule en fait, nous ébranle.
Et puis il y a aussi la présence du nuage par du bruit vidéo. Il me semble que ce qui circule d'un écran à l'autre dans votre essai vidéo et qui prend la forme d'une sorte de nuage, c'est un bruit de l'image, non ?
Tout à fait, oui.
Une altération.
Exactement, en fait, c'est dans cette matière, dans la matière du cloud, donc ce grain en fait que va naître et disparaître l'image et la mémoire. Et ça m'intéressait beaucoup d'en faire le terreau commun aux deux parties, c'est-à-dire à la partie qui va devenir plus sumérienne et à la partie qui va devenir maya. C'est là où en fait où la forme commence à être identité, où on va pouvoir la nommer si en fait le terreau de le grain est cerné par une ligne, ou si en fait l'œil exerce une trajectoire dans ces grains, eh bien on va pouvoir dégager une lecture de l'image, pouvoir hiérarchiser les éléments et en comprendre les enjeux.
Thank you.
Et peut-être pour conclure, Daphné Le Sergent, évoquer dans cette vidéo quasiment fictive avec le chercheur, la production d'objets en trois dimensions. Vous parlez tout à l'heure du flux d'informations, du flux d'images. Vous décidez de le rendre palpable en produisant des objets qui viennent comme compresser la totalité des informations visuelles qui nous sont fournies par Internet. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, ça m'intéressait bien de partir dans ce sens-là parce que aujourd'hui, Internet, des concepteurs de sites Internet s'intéressent beaucoup aux émotions qu'on peut éprouver, s'intéresse beaucoup à quelle réaction en fait on va avoir par rapport à telle information. Et aujourd'hui, les choses se font de façon affective. On regarde sur Facebook, ça se traduit en like, à tel point qu'on va faire référence à un psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman, qui va diviser les émotions en 6 émotions universelles, qui sont la peur, le dégoût, la colère, je crois que j'en oublie la tristesse, et qui vont permettre en fait une modélisation du comportement de l'internaute et la prévisibilité de ce comportement.
Notamment à des fins commerciales.
Et financière, parce que le nombre de likes sur YouTube, c'est aussi la possibilité d'un annonceur. Donc il y a un enjeu financier en fait à ce qu'on appelle le design émotionnel. Et c'est vrai que c'est une composante extrêmement importante du langage, les émotions. J'ai trouvé en fait que les objets portaient plus à cette question des émotions que les images, puisqu'aujourd'hui on est complètement immunisé par rapport à l'impact que peuvent avoir certaines images sur nous. On a l'habitude de voir beaucoup d'images, donc on prend toujours de la distance par rapport à elles, on ne les voit plus comme au premier jour. Et par contre, les objets, en fait, dans notre environnement, c'est eux qui vont susciter les émotions. C'est-à-dire que nos émotions ne naissent jamais toutes seules, elles sont toujours en relation avec quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai essayé, en fait, de proposer des images-objets, en fait. Donc, images sur l'interface de recherche qui est présentée dans les entretiens, mais aussi objets par rapport au test que propose ce Jacques Malou dans son laboratoire du GLIF.
Et qui, on peut essayer de décrire l'opération qu'il propose, hein, c'est il rentre un mot dans un moteur de recherche. Il y a une série d'images qui apparaît, comme lorsqu'on fait des recherches d'images sur Internet, et c'est comme s'il les compressait dans un seul objet qui va être imprimé en trois dimensions et qu'on va pouvoir tenir dans la main, comme si c'était possible de tenir dans la main toutes les références d'images produites par, on va pas le citer, Google, sur un mot de départ.
Exactement. Alors les objets, en fait, ont été designés par Guillaume Héroé du Hazac.
Il est vrai, lui, c'est un vrai designer.
C'est un vrai designer qui existe vraiment et qui a réagi à mon invitation en proposant, en fait, des formes qui étaient assez intéressantes parce que, en fait, on a réfléchi ensemble et il fallait qu'elles soient abstraites, mais aussi qu'elles évoquent des objets du quotidien, qu'elles soient en effet la compression de toutes les images qu'on a vues. En fait, j'ai travaillé à rebours. Finalement, les objets existaient d'abord. Et après, en fait, on a fait la recherche image pour qu'on ait l'impression, en fait, que les objets soient des compressions de toutes ces images. À un moment donné, on avait envie que ça ressemble à des glyphes, que l'objet sous un certain angle ressemble à un glyphe, puisque moi, le glyphe me semblait être une forme de compression de plein de petites cellules, en fait, le glyphe Maya. Donc il fallait que ces objets soient très ambivalents, très ouverts, en fait, pour évoquer pas mal de choses et permettre une projection, en fait, du spectateur dans cette possible expérience, puisque en fait cette idée est née, en fait, de, alors j'ai oublié le nom, c'est une équipe de chercheurs suédois qui existe réellement cette fois-ci, et en fait, pour mesurer les émotions, ils ne vont pas procéder par enregistrement de la sudation, du rythme cardiaque ou des micro-expressions faciales, mais vont plutôt, en fait, montrer au cobaye une image ou plusieurs images, une série d'images, et après visionnage de ces images, vont proposer un choix parmi plusieurs objets. Par exemple, si on va voir une image des dents de la mer, quelque chose d'un peu effrayant, on va choisir un objet qui semblera, qui pourra évoquer cette peur. Et donc, j'ai trouvé que cette réponse était assez intéressante et elle a inspiré, en fait, cette vidéo.
qu'on peut voir au Jeu de Paume en ce moment à Paris, dans le cadre de la programmation Satellite 11 qui s'appelle Novlangue. Et il y a aussi une édition, un petit livre qu'on peut se procurer et qui est publié par le musée du Jeu de Paume. Merci beaucoup, Daphné Le Sergent. Dire que l'on peut voir ça jusqu'au
23 septembre.
Jusqu'au 23 septembre. Et on peut voir au CAPC de Bordeaux une partie de votre travail. Laquelle ?
Alors c'est la même exposition avec les objets en fait qui tournera également au musée Amparo à Puebla au Mexique. Black
Au son ce soir, c'était Tar Bouklifa, Lise Marie Barré à la réalisation, Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Corinne Amar m'aide à penser et préparer cette émission. Vous pouvez la réécouter quand vous voulez sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. On se retrouve demain à 21h pour la dernière de la saison. Belle soirée. Oh, Lord, I do. Oh, Lord, I do.